Bonsoir, bonjour. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 18, versets 1 et 2. J'espère que vous allez bien. Ce message est un message enregistré parce que mon épouse et moi, nous avons pris quelques temps pour faire un voyage aux États-Unis. Et là, en ce moment, nous y sommes. Mais je pense à vous et j'ai préparé dans la prière un message pour vous bénir. Il y en aura encore. Venez sur Internet, vous ne manquerez pas de messages, vous ne manquerez pas de prédications. C'est formidable de vivre cette vie aujourd'hui avec toute cette technique. Voilà, je pense que vous avez trouvé Genèse 18, 1 et 2. Que Dieu bénisse cette parole pour chacun de vous. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous savons, vous savez, que Jésus est divin, il est Dieu. Et il vit de nos jours sur cette terre. Il est venu une première fois. Il s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre, nous dit la Bible, mais avant cela, il était déjà venu, par exemple dans ces corps qui ressemblaient aux nôtres, hein, mais qui n'étaient pas exactement la même chose. Ces trois hommes qui se sont présentés à Abraham avec des corps comme les nôtres, sous bien des rapports, par exemple, ils ont parlé, ils ont mangé, ils ont bu avec Abraham, vous voyez ça au verset 8, ensuite dans le même chapitre, puis après avoir mangé, ils lui ont dit. Les trois lui dirent, où est Sarah, ta femme? Alors Abraham répondit, ben, elle est là, dans la tente, verset 9. Alors il y en a un qui dit, je reviendrai chez toi l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, elle est dans la tente, elle rit doucement, parce qu'elle était très âgée, puis elle sait qu'Abraham aussi, il est vieux, il est vieux. Voilà, donc elle rit. Et au verset 12, on trouve ça. Alors la Bible dit que l'homme qui avait parlé dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Mais si vous lisez bien le texte, c'est écrit autrement. L'homme qui avait parlé en disant, je reviendrai, donc dans une année, Sarah aura un fils, cet homme se tenait à côté d'Abraham, Abraham se tenait à côté de lui, c'était un homme, il venait de bien manger, voilà, il avait été habillé, c'était un homme, il était bien en chair en os. Il parle, cet homme parle. La Bible attire notre attention sur quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vite dit. Donc Sarah rigole. Et la Bible nous dit, le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? C'est Moïse qui écrit. C'est Moïse qui écrit la Genèse. Et Moïse, l'écrivain du livre de la Genèse, écrit que l'homme qui se tenait là à côté de la tente, là avec Abraham, eh bien, c'était le Seigneur. C'était Dieu. Verset 13. Dieu dans un corps d'homme. Et puis la Bible reprend le récit. Alors Moïse continue à écrire. Verset 16. Les hommes se levèrent pour partir et se tournèrent du côté de Sodome. Donc vous voyez le tableau. Les trois bonhommes se lèvent. Voilà. Ils remettent leurs habits bien comme il faut. Il y a peut-être un peu de poussière. Ils se le mettent. Abraham marche avec eux pour les accompagner. Hein, c'est ce que la Bible nous dit. Alors l'un de ces hommes dit à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'était un homme, un homme qui avait mangé, qui avait parlé, qui était un homme. Voilà. Et il dit, mais en fait, Moïse écrit, sous la dictée, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration divine, il écrit, Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel. Vous voyez, d'abord c'est le Seigneur, ensuite l'Éternel. Un de ces trois hommes, c'était Dieu. C'était Jésus, ayant pris une apparence humaine. Verset 17, l'Éternel. Puis au verset 22, les hommes s'éloignèrent, il nous a dit, et allèrent vers Sodome. Alors quand on lit ça, on peut penser, voilà, les trois s'en vont. Non, non. Et puis alors, c'est écrit, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alors on pourrait penser, les trois s'en vont, puis Abraham médite en présence de l'Éternel, là, tout seul, dans quelque chose de spirituel, vous voyez, il est en présence de l'Éternel, mais sans le voir. Non, 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 non. Les hommes qui descendirent, à Sodome, ce n'étaient pas les trois, c'était juste deux d'entre eux. Vous trouvez ça au chapitre 19, au verset 1. C'était juste deux. Deux sont partis vers Sodome, il y en a un qui est resté vers Abraham. Un de ces hommes reste donc avec Abraham. Et puis, Les deux, donc, entrent dans Sodome. C'était des anges, nous dit la Bible. Genèse chapitre 19, verset 1. Les deux qui étaient entrés dans Sodome et Gomorrhe, c'était des anges, mais le troisième, celui qui est resté avec Abraham, c'était l'Éternel. Jésus s'était donc montré là, sous une forme humaine, ce jour-là. Il s'est montré à bien des gens, de bien des façons différentes, tout au long des siècles. Et puis un jour, il est venu sur cette terre exactement comme vous et moi, nous sommes venus, par une femme, en naissant, dans une chair semblable à la nôtre, nous dit la Bible. Alléluia! Il est venu vivre avec nos limitations, pendant un peu plus de 30 ans. Il s'était formé un corps, n'est-ce pas, dans le corps de Marie, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie, et puis voilà. Et puis, ce corps a vécu, Jésus était dedans, le Saint-Esprit, Dieu, l'Éternel était dedans, voilà. Et puis, au bout de quelques temps, ce corps a été crucifié, et puis ce corps est ressuscité. Et puis, quand il est ressuscité, Marie le voit dans le jardin. D'abord, elle croit que c'est le jardinier, puis elle le reconnaît, elle se précipite pour le toucher, et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vous trouvez ça dans Jean 20, 17. Patientez un peu, vous allez voir où je vais en venir. Et puis le soir de ce même jour, vous trouvez ça au verset 19, il apparaît aux disciples, mais il entre pas par la porte. Les disciples sont morts de trouille, ils ont fermé les portes, les fenêtres, les volets, les rideaux, tout. Ils sont cachés là-dedans, ils ont peur, mais je les comprends, hein. Je les comprends. Et puis il est apparu. Il est apparu là au milieu. Donc il pouvait apparaître, disparaître à volonté. Et puis, 8 jours après, vous trouvez ça au verset 26, il dit à Thomas, mets ta main là, dans mes plaies, de mon côté. Donc là, il invite Thomas à toucher. Quelque chose s'est donc passé entre le moment où il dit à Marie, ne me touche pas, et le moment où il dit à Thomas, touche-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, si on en croit ce qu'il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas monté au Père, ça veut dire qu'entre-temps, eh ben, il est monté au Père. Ah, mais je croyais qu'il est monté au Père à l'ascension. Mais attendez, il est monté au Père devant tous ses disciples. Voilà, il a montré qu'il est monté. Mais avant, il peut monter, il peut faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de nous tenir au courant de tout afin qu'on fasse des doctrines de bout de ficelle et de machin. Il fait ce qu'il veut. Il est monté vers le Père, il est redescendu. Puis là, il dit, maintenant, tu peux me toucher. Vous voyez? Son corps ressuscité était monté vers le Père. Bon, alors vous allez me dire, mais ça me sert à quoi de savoir tout ça, Michel? J'ai des graves problèmes et tu viens me raconter des histoires un peu mystiques qui ne me servent à rien du tout dans ma vie. Alors Michel, explique-moi, mon frère, ma sœur. Jésus a aujourd'hui un corps différent encore, différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Entre la résurrection et l'ascension, il s'est montré souvent. Et parfois, même ceux qui l'aimaient, qui avaient vécu avec lui, ne le reconnaissaient pas. Par exemple, à Emmaüs, vous trouvez ça dans Luc 24, 31, il n'a pas reconnu. Il apparaît comme il veut. Et si Jésus vous apparaissait aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que vous le reconnaîtriez? Ben moi, je vais vous dire, il vous est déjà apparu. Souvent même. Mais vous ne l'avez pas toujours discerné. N'avez pas bien fait attention. Vous voyez, Marie au jardin, quand elle l'a vu, elle s'est précipitée pour le toucher. Ah, ça, il y a des chrétiens comme ça, hein, et il fallait pas le faire. Vous avez des chrétiens, ils sont très enthousiastes. Thomas, lui, il n'a pas osé, il a juste dit, mon Seigneur et mon Dieu, c'est pas écrit qu'il l'a touché, hein. Mais ouais, encore une autre forme de caractère devant le même Jésus. De nos jours, Jésus a un nouveau corps, visible sur cette terre. Quelle sorte de personne vous êtes? Qui vous précipitez, tort à travers, n'importe quand, sans savoir tout? Ou est-ce que vous n'osez pas? Est-ce que vous avez... Puis vous êtes plein de respect, vous aimez... Voilà. Il vit dans un corps, dans le corps de tous ceux qui l'aiment, de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui s'efforcent de le suivre le plus fidèlement possible, mes frères et sœurs. Il vous rencontre, Jésus vous rencontre chaque fois que vous rencontrez un chrétien né de nouveau, en qui il vit, en qui le Saint-Esprit réside. Est-ce que tu reconnais Jésus dans ton frère? Est-ce que tu reconnais Jésus dans ta sœur? Oh, dans certains frères, oui, c'est facile. Et puis dans d'autres, ben, c'est un peuple, disons, voilà, faut un peu la foi là, hein, parce que, oui, je veux bien croire qu'ils sont remplis de Jésus, mais bon, Il a l'air tellement, il est tellement buté, tellement bizarre. Il y a des trucs tellement bizarres dans sa vie, je comprends pas. C'est pourquoi on est tous comme ça. On est tous comme ça. Et vous savez pourquoi on est comme ça? Ben moi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. C'est tout simple. On divinise Pierre. On divinise Paul. On divinise Jean, tous les apôtres. Ah. Et on se sous-estime soi-même et on sous-estime nos frères et sœurs. Alors qu'on est exactement comme Pierre, Paul, Jacques, Jean et tous les apôtres, comme Thomas, comme les autres, comme cette femme au jardin. On est la même chose, mes frères. On est des humains, des simples humains en qui Jésus vit par amour et il cherche à se manifester par nous, au travers de nous. Pierre. Prenons l'exemple de Pierre, le grand Pierre, Saint Pierre. Je l'aime de tout mon cœur, mais il était un incrédule de première parfois. Et même, des fois, il persistait, il signait son incrédulité. Terrible. Même en étant rempli du Saint-Esprit. Écoutez le prêcher le jour de la Pentecôte. Acte 2, 21. Quiconque, rempli du Saint-Esprit, hein, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 39. C'est Pierre. Il le dit, il le prêche, il le proclame, il ne croit pas. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'il croit vraiment? Il s'adresse là à des juifs, c'est le jour de la Pentecôte, il y a des juifs qui sont venus de toutes les nations, ils sont là, il dit, voilà, la promesse est pour vous, les juifs, pour vos enfants. Juifs et pour tous les autres juifs qui sont partout disséminés dans les nations. Mais ils ne pensent pas du tout que l'évangile, c'est pour les non-juifs. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Je sais qu'ils n'y croient pas. Je vais vous prouver qu'ils n'y croient pas. Pierre, il croit que Jésus est venu pour sauver les juifs. Quand Jésus dit, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem, enfin, je ne sais plus l'ordre, Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, aux extrémités de la terre pour sauver les Juifs. C'est comme ça qu'il pensait, Pierre. Il ne pensait pas du tout que des petits Français, des petits Suisses, des petits Italiens, des petits Africains, des petits Portoricains, des petits Algériens, ou que sais-je, non, 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 ce n'est pas des Juifs, ce n'est pas pour eux. Pierre ne pensait qu'aux Juifs. Il ne croyait pas que le salut, c'était pour les autres. Il ne croyait pas. Pourtant, Ésaïe l'avait dit. Et c'est écrit dans Matthieu 12, 18, il annoncera la justice aux nations. C'est pour les nations, c'est pour les gens des nations, pour les non-juifs. Les nations apporteront, viendront, etc. Et Pierre, en qui Jésus vit, vraiment rempli du Saint-Esprit, il était têtu. Il ne croyait pas ça. Il avait ses traditions, il avait ses idées, ses opinions. Le salut, c'était que pour les Juifs. Cinq ou sept, 8 ans après, il avait toujours pas changé. Il était toujours pareil. Il croyait toujours ça. Alors Jésus, en lui, désirait sauver les nations. Vous vous rendez compte, pendant toutes ces années, l'apôtre Pierre, tout ce qu'il aurait pu faire, ben, il n'a rien fait pour les nations. Il est resté avec les Juifs, là, même si les Juifs le rejetaient, l'embêtaient, tout. Alors Jésus, tellement désireux de sauver les nations, il envoyait un ange à Corneille, un non-juif, pour lui dire, écoute, il faut que tu envoies des hommes à Joppé pour aller chercher un certain nommé Pierre, il a quelque chose à te dire. Acte 10, verset 5, vous lirez. Le lendemain, Jésus parle à Pierre, parce qu'il sait que les hommes vont arriver, donc il faut qu'il parle à Pierre, sinon Pierre, il va même pas les recevoir. Pensez, des non-juifs, on ne se souille pas avec des non-juifs. Le lendemain, Jésus parle à Pierre pour lui dire de cesser de considérer les non-juifs comme étant impurs. Lisez, lisez. Acte 10, 15. Depuis acte 2 jusqu'à acte 10, c'est passé. Ça dépend. Les théologiens, certains disent 5 ans, d'autres 18 ans. Voilà. Enfin, mettons même 5 ans. Bon. Alors, l'apôtre Pierre, il dit, bon, d'accord, ok, d'accord, ouais. Je veux bien y aller, j'y vais, bon, d'accord, j'y vais, mais j'y vais pas seul, hein, parce qu'après, je ne veux pas qu'on raconte partout que moi, le grand Pierre, je suis allé chez des païens me souiller parce qu'ils étaient se souiller. Alors, il se fait accompagner par d'autres témoins juifs aussi, hein, il se fait accompagner. Vous trouvez ça au verset 23, hein, toujours dans Acte 10, au verset 23. Donc il se fait accompagner par des frères juifs, n'est-ce pas? Et puis alors, écoutez-le prêcher. Écoutez-le prêcher à ces non-juifs, au verset 29. Il leur dit, vous savez, non, verset 28, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Ah oui, quand? Hier. Hier seulement il a appris ça. Oui, mes frères et sœurs, Dieu m'a appris, oui, mais il dit pas quand, hein. Hier, il y a quelques heures, là, voilà, il n'y a pas longtemps. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Il leur prêche pas. Ça lui vient même pas à l'idée d'être un témoin de Jésus. Il est rempli du Saint-Esprit. Vous voyez tous ces frères et sœurs remplis du Saint-Esprit qui sont à côté de vous et que vous trouvez bizarres parce qu'ils ont des agissements qui ne correspondent pas à ce que vous pensez qu'ils devraient faire ou être par rapport à la Bible, par rapport à ce que Jésus dit. Ils sont remplis du Saint-Esprit au même titre que Pierre, la même chose. Mais Pierre, lui, il leur prêche même pas. Alors, le petit Corneille dit. Eh bien voilà, j'ai eu un ange qui est venu me visiter et il m'a dit qu'il fallait que tu viennes pour nous enseigner. Alors maintenant, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Le Seigneur, ah bon, alors, verset 33, ça. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point le favoritisme. Ah! Ah! Bizarre. Je reconnais, là, au verset 34, des années après, il reconnaît enfin que Dieu ne fait pas favoritisme. C'est terrible, le grand apôtre Pierre. Je suis pareil, je suis bourré de défauts, comme lui la même chose, comme vous d'ailleurs. C'est pourquoi on ne peut pas. Pourquoi est-ce qu'on va se juger les uns les autres? Pierre était un saint homme, mais il était comme moi, un simple homme aussi, comme moi. Un peu buté, hein, avec ses défauts, mais Jésus vivait en lui. C'était une histoire d'amour. Comme Jésus vit en moi, comme Jésus vit en toi qui es bourré de défauts, qui es buté, qui est bizarre. Et il vit aussi dans chaque croyant que tu connais et que tu as parfois de la peine à supporter. Je ne sais pas si j'aurais supporté l'apôtre Pierre. Je ne sais pas. Et j'aurais fait parce que la Bible dit de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Alors, apprenons tous à faire la différence entre l'homme qui est en voie de perfection, qui est en train de se perfectionner, et puis Jésus qui vit dans cet homme, Jésus qui vit dans cette femme, ce Jésus parfait. Quand je rencontre un chrétien, je rencontre Jésus qui vit là-dedans, dans ce corps bizarre. Dans cet être bizarre, mais Jésus vit là. Rencontrez Jésus quand vous rencontrez vos frères et sœurs. Rencontrez Jésus. Rencontrez Jésus, mes frères et sœurs. Vous savez, il prend des apparences très étranges parfois. Sachez l'écouter. Si vous ne l'entendez pas, ce sera votre faute. Vous ne pourrez pas dire. Oh oui, mais t'avais qu'à m'apparaître d'une autre manière. Moi, j'ai pas compris que c'était toi. Oui, non, ben alors non, j'ai pas pensé. Non, à mon avis, non, ben non. Il faut que tu discernes le corps de Christ. Il faut que tu vois que Jésus vit dans le frère et la sœur, même ceux qui sont bizarres. Dieu fait même exprès de se montrer sous la forme de gens un peu bizarres, un peu nerveux, un peu. Allez, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'aide à avoir une meilleure relation avec tes frères et sœurs. Sois gentil avec eux, parce que n'oublie pas que tout ce que tu leur fais, c'est à Jésus que tu le fais. Amen. Prions. Jésus, merci de nous remettre encore sur les voies, afin que nous fassions encore des progrès, que nous marchions de mieux en mieux. Merci Jésus de nous apprendre toutes ces belles choses. Et merci de prendre soin de chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Permets que mes frères et sœurs écoutent ce message et s'en inspirent pour pouvoir avoir les bonnes attitudes, avoir les bons comportements avec les frères et sœurs. Merci de m'aider. Tu connais comment je suis. Et ben, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Amen. Allez, à bientôt. Dieu vous bénit. À bientôt, mes frères et sœurs. À bientôt.